Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La stupeur en Charente après l'arrestation d'un policier soupçonné de viol et de tentative d'enlèvement sur 6 femmes dans le secteur d'Angoulême. Témoignage RMC dans un instant de sa dernière victime. Le budget passera finalement par 49.3 ou par ordonnance. Les débats ne reprendront pas ce matin à l'Assemblée. Et la campagne des municipales qui s'accélère, vous verrez à Marseille. Marine Le Pen sur place aujourd'hui pour soutenir le candidat RN, donné au coude à coude avec le maire sortant Benoît Payan dans un sondage.
Direction Angoulême ce matin en Charente.
Où c'est la stupeur depuis l'arrestation d'un policier de 45 ans, donc déféré hier soir devant un juge d'instruction en vue d'une mise en examen pour le viol d'une adolescente et pour 5 tentatives d'enlèvement dans le secteur d'Angoulême. Dernière en date, il y a 10 jours, une sexagénaire qui s'est interposée, qui a donné l'alerte et qui témoigne sur RMC Pierre Bazin.
Oui, la semaine dernière, la femme de 60 ans promène son chien lorsqu'une voiture se porte à sa hauteur. Celui que les enquêteurs ont identifié comme étant le policier d'Angoulême veut la contraindre à monter dans le véhicule. Au micro RMC de Pierre Bourgès, elle raconte les longues minutes de lutte pour lui résister.
Il m'a dit « tu montes dans la voiture », je lui ai dit non. Donc il m'a attrapé par ma doudoune. Il a levé ma doudoune et il a passé ses mains sur mon ventre. Il m'a mis son pouce au niveau du cou. Il m'a dit j'ai un couteau. Et c'est là que je lui ai dit toi t'as pas de couteau, par contre moi j'en ai un.
La sexagénaire frappe alors le suspect avec un petit canif. Ce dernier prend la fuite. Aujourd'hui, c'est le profil de son agresseur présumé qui l'interpelle, un policier du commissariat d'Angoulême.
C'est encore pire. On ne peut plus avoir confiance en rien, en personne. Malheureusement, c'est le genre masculin qui aujourd'hui va me poser un problème.
Une semaine après cette agression, le policier est interpellé, confondu par la téléphonie, la vidéosurveillance et des prélèvements ADN. Les gendarmes font alors le lien avec 5 autres agressions, dont le viol d'une jeune femme de 17 ans, 1 an auparavant.
Le verdict est attendu ce soir à Blois, au deuxième jour du procès aux assises de l'homme qui avait laissé pour morte son ex-compagne en 2022. On en parlait hier matin, jeune femme qui avait tenté de porter plainte quelques heures plus tôt, mais à qui la police avait dit de revenir le lendemain. Je vous signale que les débats sur le budget ne reprendront pas ce matin à l'Assemblée. Ils s'enlisaient et le gouvernement a décidé de tout suspendre hier soir. Il va poursuivre les discussions en coulisses désormais, avant une adoption soit par 49.3, soit par ordonnance. Cyprien Pesserie du service politique à RMC. Le gouvernement dit que c'est à cause des oppositions.
Oui, à cause, dénonce Matignon, du sabotage continu du RN et de LFI. Le texte issu des discussions à l'Assemblée n'a plus de cohérence. Le gouvernement engagera donc soit sa responsabilité avec le 49.3, soit utilisera, première historique, une ordonnance. Avant de déterminer la procédure, il faut d'abord un compromis sur les mesures, répètent en boucle les socialistes, qui jurent que leur clémence n'est pas acquise. Tout se discute donc en coulisses. Épreuve en est, le gouvernement a décidé tard hier soir d'annuler les séances prévues à l'Assemblée aujourd'hui et lundi. Les députés invités à rester chez eux pendant que le PS et les ministres essaient de conclure. Le chef du gouvernement va rendre public des propositions aujourd'hui pour prouver qu'il est toujours prêt à des concessions et presser les socialistes. Ne plus perdre de temps, même si l'entourage de Sébastien Lecornu prévient, il n'y aura pas de budget définitif avant la première quinzaine de février.
Par ailleurs, le gouvernement qui fait marche arrière sur les arrêts maladie en renonçant à des fixations de limites dans les prescriptions d'arrêt maladie, c'était une revendication des médecins libéraux qui viennent de faire grève, vous l'avez certainement constaté, pendant 10 jours.
Il est 8h03 sur RMC, la campagne des municipales s'accélère à Marseille.
Oui, un sondage Ipsos donne le candidat RN Franck Alizio au coude à coude avec le maire socialiste sortant Benoît Payan, tous les deux loin devant la candidate de la droite Martine Vassal et l'insoumis Sébastien Delogu. Marine Le Pen sera à Marseille aujourd'hui pour soutenir le candidat RN qui a bon espoir de l'emporter à la Jaugeard.
Certains Marseillais ne s'en cachent pas.
Ça sera plus le RN que Payan. Hein.
Ils aimeraient voir le RN remporter la deuxième ville de France.
Pour moi, ce serait une victoire. J'espère que le RN prendra place sur Marseille. Quoi.
Chantal et son amie Emma expliquent leur choix par un besoin de sécurité.
C'est épouvantable.
Mais épouvantable.
On n'est plus en sécurité nulle part.
On ne sort plus le soir. On rentre relativement tôt chez nous dès que la nuit tombe.
Une position loin d'être partagée par tous les Marseillais, mais le récent sondage qui donne le RN ex aequo avec Benoît Payan, le maire sortant, inquiète les électeurs de gauche quant à une possible victoire du parti.
Je pense que c'est possible, malheureusement. Ça m'aurait fait de voir le RN à ce niveau et que les gens croient qu'il va apporter des solutions alors que je pense pas du tout.
C'est quand même des opinions assez radicaux par rapport à l'immigration. Et Marseille est une ville multiculturelle qui arrive pour l'instant à vivre ensemble.
J'espère que c'est un sondage et que les choses vont changer.
Fort de ce sondage, Franck Alizio, le candidat RN, a demandé à Martine Vassal, candidate d'hiver droite, de retirer sa candidature. Une proposition immédiatement refusée.
Et la campagne des municipales qui bouge aussi à Montpellier, où le milliardaire Moued Altrad retente sa chance en annonçant sa candidature à la mairie, lui qui avait été battu en 2020 par l'actuel maire de gauche, Michael Delafosse. Alors ça se passe aux États-Unis et c'est digne d'un feuilleton. L'opposante vénézuélienne Maria Machado a remis hier soir sa médaille de prix Nobel de la paix à Donald Trump, qui, vous le savez, rêve de ce prix Nobel. Antoine Hollard, vous êtes aux États-Unis pour RMC. Donald Trump a tout fait dans ce feuilleton. Il l'a critiqué, il l'a reçu et maintenant il la remercie.
Oui, Maria Machado a été reçue par Trump hier à la Maison-Blanche, un déjeuner de travail fermé à la presse. Et c'est donc à cette occasion qu'elle lui a donné sa médaille du Nobel. Une façon pour elle de s'attirer les bonnes grâces de Trump, alors qu'elle espère jouer un rôle dans la reconstruction politique du Venezuela et que le président américain ne compte pas sur elle. Il estime qu'elle n'a pas l'envergure pour diriger le pays. Alors pas sûr que ce cadeau le fasse changer d'avis sur ce point, mais Trump est ravi. Il parle d'un geste magnifique pour tout le travail qu'il a accompli. C'est vrai qu'il avait été très vexé, très jaloux cet automne quand la récompense lui avait échappé. Reste que tout cela est symbolique. Le comité Nobel rappelle les règles. La médaille peut changer de main, mais ça ne change pas le palmarès. Concrètement, Maria Machado est officiellement prix Nobel 2025 et pas Donald Trump.
Bon, et l'affaire fait grand bruit aux États-Unis. Le Mexique demande d'ailleurs des comptes aux Américains après la mort d'un de ses ressortissants détenu par la police de l'immigration que Donald Trump a renforcée depuis son arrivée pour arrêter les clandestins, mais qui est critiquée par une partie des Américains, encore plus depuis la mort d'une Américaine à Minneapolis il y a maintenant 10 jours.
8h06, on est à 2 jours de la grande finale de la CAN en football.
Entre le Sénégal et le Maroc, qui jouera cette finale à la maison, à Rabat. Et alors Marion Gauthier, vous nous dites pour RMC que de nombreux franco-marocains cassent leur tirelire pour faire le voyage là-bas et trouver des places pour assister à cette finale.
Dès la qualification pour la finale, chercher des places.
Les dernières 48 heures ne sont dédiées qu'à ça. Hein.
Avec ou sans billets pour le stade, Zakaria pourrait partir, il hésite.
Le sport dépasse la raison. J'aurais préféré avoir un billet, mais il suffit d'être 2 ou 3 pour prendre la voiture et y aller sur place dans une fan zone, si possible, parce que la ferveur dans les fan zones est juste exceptionnelle.
Et elle a déjà emporté Amine et sa famille. 2000 euros dépensés sans siller pour voler vers Rabat.
Le budget vacances de cet été vient clairement de descendre drastiquement. On restera sûrement en France. Le football, c'est aussi des émotions. Et je pense que les émotions, si je veux les transmettre à mes enfants, c'est dans le stade qu'il faut les vivre. Et non, on va pas rater ça.
Après l'euphorie des billets pris,
un peu stressé.
Admet Mohamed, lui, décolle vendredi de Lyon.
J'ai pas réfléchi, je fais Fès-Casa dimanche matin, donc je fais Casa-Rabat avec les amis, peut-être avec les parents si je trouve des billets. Personnellement, moi, je suis prêt à faire des kilomètres et à passer une nuit blanche pour les apercevoir, brandir en tout cas ce trophée.
Pour voir les Lions de l'Atlas réaliser l'exploit 50 ans après, à domicile.
Et en attendant la finale de la CAN qu'on vivra dimanche soir sur RMC, il y a la Ligue 1 qui reprend la 18e journée ce soir. 2 matchs, Monaco-Lorient, ce sera à 18h et Paris-PSG-Lille à 21h.
C'était le journal de Quentin Vinet, 8h08, on parle économie.
RMC, Apolline Matin,
le chiffre d'affaires.
Emmanuel, plus encore que la France, l'Europe paye très très cher ses lourdeurs administratives. Je pensais qu'on pouvait pas faire pire que la France.
Ah bah attendez, si vous avez aimé la première saison de Comment se tirer une balle dans le pied, qui raconte à quel point la France pénalise lourdement son économie à coups de normes et de réglementations, vous vous rappelez, on en a déjà parlé, on estime ça à 60 à 80 milliards d'euros pour la France. Eh bien, si vous avez aimé ça, vous allez adorer la saison 2. Alors la saison 2, on voit toujours plus grand, on parle d'Europe, d'Union européenne, et là on est dans le sensationnel, le spectaculaire, puisque selon l'étude que vient de publier la Banque Centrale Européenne, chaque année, l'Europe perd en tracasserie administrative l'équivalent de 10 points de PIB.
10 points de PIB ?
10 points de PIB, ça fait 2000 milliards d'euros.
Où est-ce qu'ils sont perdus ces 2000 milliards d'euros ?
Alors, il faut rappeler que le marché unique garantit la libre circulation des biens, des services et des personnes au sein de l'Union européenne, donc sans taxes douanières, sauf qu'au fur et à mesure que des produits ou des services ou des gens traversent l'Europe, eh bien normes, règles, procédures, interprétations nationales divergentes, codes du commerce divergents créent tout un tas de frictions administratives. Au total, tenez-vous bien, ces frictions administratives entre pays européens correspondent à des droits de douane de 67% sur les marchandises, de 95% sur les services. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Europe s'inflige à elle-même ce qu'aucune puissance commerciale n'ose lui imposer. Parce que je vous rappelle que Donald Trump nous a imposé des droits de douane de 15% sur nos exportations. Et ce que nous dit la Banque Centrale Européenne, c'est qu'une simple baisse de 2% de ses barrières internes, eh bien, suffirait à compenser la hausse des droits de douane imposés par Trump.
Est-ce que l'Europe pourrait gagner en efficacité ?
Alors, la feuille de route, elle est tracée, hein. Il y a eu de nombreux rapports, rappelez-vous le rapport de Mario Draghi notamment, pour nous expliquer comment rendre l'Europe plus efficace. Alors évidemment, il ne s'agirait pas d'imposer les mêmes règles à tout le monde, mais d'aller vers des standards plus communs. Alors il y a une dizaine de textes de simplification, vous savez les fameux omnibus qui sont attendus cette année sur la transition écologique, le numérique, la sécurité alimentaire ou l'industrie. Donc espérons que ça va permettre un peu de fluidifier tout ça, parce que il faut rappeler que si l'Europe doit se défendre, c'est moins contre les États-Unis ou la Chine que contre elle-même.
Et donc, il y a de la marge, on l'a bien compris. Merci Emmanuel,
8h11. RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Restez bien sur RMC dans un instant. Il y a Arnaud Demange qui va venir nous rejoindre à 8h30. L'invité du face-à-face, ce sera Alain Bauer pour essayer de mieux comprendre cette grande incertitude et ce monde de plus en plus inquiétant. Il vient d'écrire un livre sur Donald Trump, Groenland, Iran. Que comprendre à Donald Trump? Rendez-vous donc à 8h30. Et puis juste après, comme chaque matin, 8h50, rendez-vous avec Nicolas Canteloup, la semaine face à Canteloup sur RMC. Il est 8h11, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin. C'est tous les jours de manche.
Il est 8h14 et Arnaud de Manche rentre dans ce studio. Bonjour.
Ça
Arnaud.
Va les belles gosses et Mathieu.
Ouais.
Bonjour à tous.
Belles gosses.
Tiens les amis, peut-être que parfois vous traînez sur Tinder à la recherche d'un moment d'amour, un moment câlin, un moment complice. Eh bien, c'est une histoire vraie. Entre les photos de profil, le gouvernement a décidé de mettre des pubs pour la campagne des municipales.
Non.
Si, c'est vrai, ils vont faire ça. Donc Mathieu Béliard, il va ouvrir son Tinder, il va faire défiler les nanas. Elle, non. Elle, trop petite. Elle, trop de moustaches. Elle. Et elle, c'est Éric Zemmour. Et oui, bonjour. Même les gonzesses, alors vote pour la mienne. Sarah Knafo pour Paris. On peut draguer tranquille ou pas? T'imagines, ils font pareil dans la vraie vie. T'es en boîte. Salut, t'es super jolie, je peux t'offrir un verre? Et là, la fille, elle arrache sa perruque. Bonjour, je suis Éric Ciotti. Avez-vous entendu parler du bilan municipal de Christian Estrosi? Après, on se plaint que la natalité baisse, ben, y a des explications. Donc là, on est parti pour 2 mois de...
Tu veux rencontrer les futurs maires les plus chauds de ta région? Alors swipe à droite pour les candidats de droite, swipe à gauche pour les candidats tout mous, et parle avec eux des sujets les plus chauds et sans tabou. École, ordures ménagères, impôts, viens glisser ton bulletin dans la fente de la démocratie et bourre une urne dans le gymnase le plus proche de chez toi. La natalité va remonter en fait.
Ouais, ça va être réarmé. Hein. Alors après justement ses vœux aux armées hier, Emmanuel Macron est revenu à Orly dans un avion piloté par Thomas Pesquet.
Ouais, pour sa dernière année de mandat, il veut se faire kiffer.
Et cet été, je vais jouer un match avec les Bleus. Et ce week-end, dîner romantique avec Lynn Renault. Hein? Avec cette petite allumeuse. Oh Brigitte, t'étais là? Mais...
Donc là, il fait de l'avion avec Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, monsieur parfait. Il est beau, sportif, ingénieur. Il chante aux enfoirés pour aider les nécessiteux. Il parle anglais, russe, allemand, espagnol et chinois. Ceinture noire de judo, ceinture noire de jujitsu. Et il joue du saxophone. Et en plus, il est sympa. Mais quel connard! Quel connard! Hein, on se sent tous merdiques à côté. Vivement qu'on trouve sa sextape où il biffle un canard à celui-là. Allez, Saturnin! T'aimes ça, hein, Saturnin? Poc, poc, poc! Il m'énerve! En attendant, faut reconnaître que c'est pour ça qu'on l'envoie dans l'espace.
Pourquoi c'est... Saturnin?
Mais parce que c'est un canard, Saturnin! Pourquoi un canard, surtout? Non, mais c'est pour ça qu'on l'envoie dans l'espace, Thomas Pesquet. C'est une maison témoin. C'est notre message à nous, les terriens, pour dire aux extraterrestres, ça, c'est nous, ça. C'est un terrien normal. On est tous comme ça. Comme ça, les extraterrestres se disent, oh, on va pas les attaquer. Ils sont tellement intelligents et costauds. Et en plus, ils jouent du saxophone. Hein, normal. Mais Apolline, on n'allait pas leur envoyer Sébastien Delugu. Allez, direction le soleil. Sébastien, on va cramer. Je suis pas débile, on va y aller la nuit. Oh les martiens, enculés! Dans 2 mois, c'est la guerre des étoiles!
Alors bon, rien à voir, ouais. L'opération pièce jaune!
Oui, au profit de la Fondation des hôpitaux, toujours avec Brigitte Macron comme marraine. Elle est bien placée pour connaître l'état des hôpitaux, c'est son mari qui les a bousillés. Toi, t'es infirmière, tu t'es pris un coup de lacrymo dans une manif où tu réclamais des moyens. Et puis, on a baissé des budgets de 10%. Et il y a Brigitte qui se pointe avec sa tirelire en carton où t'as 9 euros en pièces de 5 centimes.
Tenez, c'est pour réparer les conneries de mon mari.
Bon, je vous laisse, j'ai un dîner chez Harry Habitant. Faut que je passe prendre Gérard Miller. Alors, à la base, les pièces jaunes, c'était la petite monnaie qui traînait dans nos poches. Oui. Mais depuis 30 ans, le pouvoir d'achat, il a un peu baissé. Aujourd'hui, le fond de tes poches, c'est 20% de ton budget. C'est dégueulasse. Mais il faut donner. Il y a plein d'enfants dans les hôpitaux qui ont besoin de vous. Et c'est pas les stars qui vont aider. Hein, parce que les stars, vous avez vu, c'est toujours horrible. On leur fait faire des jeux caritatifs.
Bonsoir. Bienvenue à Qui veut gagner des millions pour lutter contre la mucoviscidose. S'il y a des enfants malades qui nous regardent, peut-être que ce soir, vous aurez le budget pour cette fameuse grève du poumon que vous attendez tant, grâce à notre invité Florent Pagny. Et Florent, première question, pour aider les enfants, quel est l'hymne national de la Hongrie?
Et la baguette. C'est fou, hein? Se dire qu'un enfant n'aura pas de grève de poumon parce que Florent Pagny ne connaît pas l'hymne de la Hongrie, ça tient à peu de choses. Donc, faut faire gaffe à ce qu'on fait des dons. Alors, il y a l'autre truc aussi, des fois, ils font venir des clowns à l'hôpital. C'est-à-dire que non seulement tu souffres le martyr, mais en plus, il y a un clown qui vient dans ta chambre. Coucou! T'as jamais été aussi proche de la mort. Débranchez-moi.
C'est le clown rigolo.
Hein, y a deux phrases qu'on n'a pas envie d'entendre à l'hôpital. C'est « On peut plus rien faire pour vous, votre cancer est trop avancé. » Et « Tire sur mon doigt !»
Docteur clown, il va jongler avec les quilles qui sont au pied de ton lit.
C'est mes prothèses de jambes, ça coûte 8000 balles.
Oh, elles sont tombées, elles sont cassées.
C'est pour ça qu'il faut donner aux pièces jaunes. S'il y a beaucoup de sous, ils ouvriront des lits. Et s'il n'y a pas beaucoup de sous, ils se contenteront d'un intermittent du spectacle déguisé en clown. Donnez. Wow. Et bon week-end. Wow.
Alain. Oh là là, merci Arnaud. Merci, c'est difficile ensuite, je trouve.
Ah oui, il faut enchaîner.
Arnaud de Manche, donc, qui est non seulement en direct avec nous tous les jours à 7h20 et à 8h20, mais qui est aussi en podcast à tout moment et qui est même en spectacle.
Ah oui, Pierre.
À Nice, à Aix-en-Provence, à Toulon, à Creutzwald.
Creutzwald, c'est quelque part. Donc, si vous habitez non, quelque part.
C'est du côté de l'Est,
oui,
non
c'est l'Est, ouais, dans c'est l'Est. Pas la Dordogne, c'est vrai.
Spectacle RMC. Au 32-16, vous réalisez ce matin à ces voitures électriques. Vous franchissez le pas. Nombreux désormais, vous osez acheter une électrique d'occasion. Et on part retrouver. Alors, c'est caché. C'est caché. Vous vous appelez comment ?
Bonjour Apolline, bonjour tout le monde.
Bonjour Nawel, on me dit, parce que je vous explique tout. J'ai un écran devant moi et il y a un câble d'ordinateur qui passe devant, pile à l'endroit de votre prénom. Alors Nawel, vous êtes en Gironde. Est-ce que vous oseriez, est-ce que vous avez osé acheter une électrique d'occasion ?
Oui, oui, effectivement, il y a 3 mois, je suis passée à l'électrique. J'étais en voiture thermique depuis des années. Hein. J'ai 48 ans, je conduis depuis l'âge de 18 ans. Et je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise véhiculement parlant. Voilà.
Véhiculement parlant, vous êtes comme Thierry, vous êtes enthousiaste. Vous l'utilisez pour quoi et c'est quel modèle ?
Alors, j'ai un C3 Crossback. Bon, ça reste quand même une petite citadine. J'avais une thermique juste avant ça, c'était une Clio 4.
Ouais.
Et je l'utilise essentiellement pour aller au travail. J'ai à peu près 20 km par jour. Et voilà, essentiellement pour le travail.
Donc, pas de regrets. Et c'est intéressant, Thierry disait la même chose tout à l'heure. On a entendu hein, cet enthousiasme et cette confiance désormais dans l'électrique. Merci beaucoup d'avoir appelé au 32-16. Il est 8h21. Je voudrais vous signaler deux rendez-vous. Bien sûr, tout de suite, le face-à-face. Mon invité, c'est Alain Bauer. On va revenir sur Donald Trump et l'incertitude du monde. L'Iran, le Groenland, ça se passe sur RMC et BFM TV. Et puis, je vous donne rendez-vous dimanche soir, 20h30. Ça me tient très, très à cœur. À 20h30, dimanche soir, c'est le début de la deuxième saison d'Apolline chez vous. Je me suis rendu chez un certain nombre de nos auditeurs, vous qui avez franchi le pas du 32-16, j'ai été partager un morceau de votre vie. Vous retrouverez Yann, le boucher du Vaucluse, vous retrouverez Sylvie qui est viticultrice dans la Drôme, et dimanche soir vous retrouverez Thierry qui avait témoigné du côté de Lyon. Vous retrouverez son histoire, il m'a accueilli dans sa vie, et vous le retrouverez donc dimanche soir. Rendez-vous 20h30 sur RMC Story. À tout de suite sur BFM et RMC, 8h20.
RMC
Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Élise Dangean.
Tout ça pour ça, le gouvernement coupe court au débat sur le budget, mais les députés au repos forcé et passera soit par le 49-3, soit par ordonnance pour une adoption qui ne sera pas avant la mi-février. La faute, dit-il, au sabotage continu des extrêmes. Un policier du commissariat d'Angoulême accusé de viol et de tentative d'enlèvement sur 6 femmes âgées de 17 à 61 ans. Des faits qu'il a reconnus en garde à vue après son interpellation mardi. Le fonctionnaire de police a été présenté à un juge hier soir en vue de sa mise en examen. Donald Trump salue le geste magnifique de Maria Corina Machado, lauréate du prix Nobel de la paix, qui lui a offert sa médaille hier lors d'une rencontre à la Maison Blanche pour le remercier de son intervention dans le pays pour arrêter Nicolas Maduro. Et puis ce soir, ouverture de la 18e journée de Ligue 1, le PSG reçoit Lille à 21h après Monaco, Lorient à 19h. La météo, vigilance orange sur le Finistère pour la crue de l'Odé. Aujourd'hui, le temps sera souvent pluvieux avec notamment de fortes pluies vers les Cévennes, du soleil sur l'Alsace et le Jura.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
C'était le rappel des titres d'Élise Dangean. Dans un instant, Donald Trump, que fera-t-il face à l'Iran? Que fera-t-il face au Groenland? Pour mieux comprendre, mon invité Alain Bauer qui rentre précisément des États-Unis et lui consacre un livre. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Alain Bauer.
Bonjour.
Vous revenez des États-Unis et vous en revenez avec un livre, Trump, le pouvoir des mots. C'est publié aux éditions First. Vous êtes bien sûr professeur émérite de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. On va essayer de mieux comprendre avec vous le langage, les décisions, l'incertitude que fait peser sur le monde Donald Trump. Et cette semaine, l'Iran et le Groenland, plus incertains que jamais. Mais avant de parler de Donald Trump, j'aimerais parler d'Emmanuel Macron. Et précisément de ce rapport de force. Emmanuel Macron qui hier a déclaré « Pour être craint, il faut être puissant. Pour être puissant dans ce monde si brutal, il faut faire plus vite et faire plus fort. » Dans le même temps, il annonce envoyer des soldats au Groenland. Ils sont 15.
Alors, en diplomatie, il y a le symbolique et il y a le réel. On a bien compris que dans le réel, on n'était plus présent depuis un certain temps, depuis l'effondrement de nos armées, la réduction à une armée bonsaï, un peu de tout, beaucoup de rien, qui a été dénoncé à juste titre par le général de Villiers d'abord, par le général Burkhardt ensuite, deux chefs d'état-major des armées qui ont eu le courage, l'un a été puni, l'autre a été promu, mais au moins peut-on parler d'une évolution, de dire à quel point nous avions éliminé nos capacités de souveraineté nationale et militaire au nom de l'idée que notre dissuasion nucléaire servait à tout.
On sait depuis, que ça suffisait.
Depuis 2001 que ça n'est pas vrai. Les Russes nous ont rappelé à quel point ça n'était pas vrai. Mais au moins a-t-on fait quelque chose dans l'envoi non seulement des Français, des Danois, quelques Anglais aussi, des Norvégiens.
C'est mieux que rien.
C'est mieux que rien. C'est mieux que rien parce que ça implique l'idée que...
Ça n'est pas ridicule.
C'est ridicule, mais c'est mieux que rien.
C'est ridicule, mais c'est mieux que rien.
Oui. C'est-à-dire, on avait le choix entre rien, la lâcheté totale, la mobilisation structurelle et l'entre-deux. Mais il faut le rappeler, contrairement à ce que tout le monde raconte, le Groenland n'est pas partie de l'Union européenne. Ça n'est pas vrai. Le Groenland a choisi par deux fois de ne pas être dans l'Union européenne. Deux fois. Le Groenland est soumis à un traité, je l'ai ramené, 1951.
Vous l'avez sous les yeux, vous l'avez même imprimé.
Oui, il est là, voilà, je l'ai imprimé parce que ça sert toujours. Qui donne aux États-Unis la possibilité de mettre n'importe où, n'importe quand et n'importe comment au Groenland, des équipements militaires de défense dans l'intérêt des États-Unis.
Donc pas dans l'intérêt des habitants du Groenland, pas dans l'intérêt des membres de l'OTAN ou de l'Union européenne.
Dans le cadre de l'OTAN, mais dans l'intérêt des États-Unis. Ceci date de 1941, 10 ans avant, quand l'ambassadeur du Groenland, contre l'avis de son propre gouvernement, danois, a donné tout pouvoir aux États-Unis pour se prémunir d'attaques de sous-marins allemands. Depuis 1951, c'est une immense base, d'abord aérospatiale, de contrôle aérien, du NORAD, donc qui contrôle tout le continent nord-américain, États-Unis, Canada et Groenland, et surtout qui a été une base de bombardiers stratégiques contre la Russie pendant des années. Cette base était secrète. C'est un Français, Jean Mallory, qui la découvre en se baladant avec son guide inuit et qui, 4 ans plus tard, dit « Vous savez qu'il y a une grande base américaine dont personne ne connaît l'existence ».
Cette base aérienne, ce traité que vous avez sous les yeux, ils sont toujours aujourd'hui
en 2004, ils ont été
en application.
Oui, ils ont été remis à jour, mais pas du tout supprimés. Ils ont intégré la volonté du Groenland de devenir indépendant et les raisons de son autonomie. Donc, ils prévoient que les États-Unis parlent aussi aux Groenlandais et pas seulement aux Danois s'ils décidaient de faire quelque chose de nouveau ou une nouvelle implantation.
Prenons le temps d'essayer de comprendre, Alain Bauer. On se retrouve avec une situation où Donald Trump, de manière de plus en plus pressante, de plus en plus évidente, dit qu'il veut le Groenland. Les Européens, qui eux disent qu'il n'en est pas question, les Danois évidemment également, et donc les Européens qui envoient, alors même si en effet on l'a bien compris, c'est pour l'instant un nombre symbolique de soldats, donc on a des soldats de membres de l'Alliance Atlantique qui sont postés au Groenland pour faire face à une éventuelle arrivée de soldats ou une action d'un autre membre de ce même traité de l'Alliance.
Non, ce n'est pas ce qui est
alors
annoncé.
Alors expliquez-nous.
Il est annoncé que c'est pour garantir la protection du Groenland dans le cadre de la demande du président Trump afin de se prémunir contre les Russes et les Chinois.
C'est-à-dire
les Européens. Le commentaire sur l'envoi de cette mission préparatoire à un exercice qui permettrait de défendre le Groenland, c'est pas pour le défendre contre les États-Unis.
En tout cas, officiellement.
Ni officiellement, ni officieusement, ça n'est pas dit du tout. C'est fait pour le défendre, comme le demande Donald Trump, contre les Russes et les Chinois.
Mais attendez, je ne comprends rien.
Ben, c'est parce que nous ne savons pas comment parler le Trump. C'est tout le cadre de cet ouvrage. J'essaye d'expliquer que Trump dit toujours la même chose depuis 1987. En 87, il achète une page complète du New York Times en disant, en matière de politique étrangère, voilà ce qu'il faut faire. Taper fort, s'exprimer clairement et avancer dans un cadre qui est dans l'intérêt des États-Unis et des États-Unis seulement. 40 ans qu'il dit la même chose. Mais nous ne l'écoutons pas, nous ne le lisons pas, nous ne le comprenons pas, et nous réagissons uniquement à ces provocations. Mais derrière la provocation, il y a un autre Trump. Il y a un Trump extrêmement structuré, extrêmement rationnel, extrêmement business, qui dit clairement ce qu'il veut, comment il le veut, et comment il veut le faire. Et en plus, il vous le fait sans hypocrisie, sans masque, sans emballage.
En fait, il ne nous prend pas à défaut.
Non.
Il nous dit, et vous l'avez d'ailleurs analysé effectivement dans ce livre, Trump, le pouvoir des mots, il dit les choses, il faut juste l'écouter et le lire.
Et le croire. Toujours
et le croire. Il faut toujours croire ce que dit Donald Trump.
Oui.
Alors attention, il y a aussi ce que les Iraniens ont peut-être cru et qui n'a ensuite pas été suivi de fait, on y viendra, mais restons sur le Groenland. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est-à-dire que le sentiment qui s'est installé dans les opinions publiques européennes, ou en tout cas que nos gouvernants nous laissent entendre, c'est que attention, il ne faut pas toucher au Groenland et que on va s'en prémunir et que s'il le faut, on va envoyer des soldats. Mais en réalité, vous dites que vis-à-vis des États-Unis, ils n'assument pas du tout le même langage.
Pas du tout. Ils disent aux États-Unis, voyez, nous faisons l'effort nécessaire pour protéger le Groenland contre vos nouveaux ennemis, les Russes.
Mais il y a aussi ce que disent le Premier ministre du Groenland. Et les gouvernants du Danemark.
Oui, mais eux, c'est plus normal, c'est un peu chez eux. Alors, le Danemark de moins en moins. Le Danemark a admis que l'indépendance du Groenland arriverait un jour. Le Groenland est dirigé par des partis tous indépendantistes. Alors, plus ou moins indépendantistes, mais tous indépendantistes. Donald Trump dit, soit j'achète le Groenland, soit j'achète les électeurs groenlandais, soit il faut organiser un référendum.
Est-ce que c'est possible, ça? C'est-à-dire, quels sont les scénarios alors, j'aimerais les scénarios du point de vue, effectivement, américain, et ensuite du point de vue européen. Mais du point de vue de Donald Trump, quel est le scénario et à quelle échéance?
J'achète ou j'occupe? J'achète parce que il a fixé un tarif entre 10 000 et 100 000 dollars par habitant. Vu le nombre d'habitants du Groenland, c'est à peu près...
Ils sont 50 000 à peu
voilà,
près.
Voilà, jouable. J'occupe parce que dans le cadre du traité de 1951, eh bien, je décide à nouveau de renforcer la base de Tulé, désormais pitoufique, où il n'y a que 150 soldats américains, mais il peut y en avoir 15 000 demain matin. Comme ça a été le cas dans les années 50,
et ça, au moment où on découvre... Et ça, personne ne pourrait s'y opposer.
Rien.
C'est dans le traité. Il a le droit d'envoyer 15 000 hommes s'il veut sur sa base.
Le Groenland n'est pas dans l'Union européenne. Le Groenland n'est pas dans l'Union européenne par une décision des Groenlandais eux-mêmes.
Alors maintenant, de notre point de vue, du point de vue des Européens, du point de vue des Danois, que pouvons-nous faire, que devons-nous faire, quels sont les différents plans sur lesquels travaillent les uns et les autres? Lorsqu'Emmanuel Macron convoque hier matin un conseil de défense en urgence, c'est pour faire quoi?
Bah, d'abord, c'est pour convoquer un conseil défense, pour que vous le faire savoir, pour que nous puissions en discuter ce matin.
Pour qu'on se dise qu'il s'agite et qu'il agit.
Il se passe quelque chose. Non, mais il reste un Européen disponible pour tenter vaguement d'unifier l'Europe. L'Europe n'est pas une puissance, c'est un marché. Elle a décidé de ne pas être une puissance. Le Danemark lui-même achète des F-35 américains, dont la règle d'usage fait qu'il ne peut pas servir contre les États-Unis.
Donc c'est vrai que c'est assez... inouï quand même, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que l'Europe aujourd'hui s'inquiète, mais elle n'a en effet pas créé d'armée à proprement parler. Et on s'en souvient bien, les Polonais, les Danois, lorsqu'ils ont dû acheter, contrairement au fait qu'ils auraient pu acheter des avions qui notamment étaient des avions de marque française, de fabrication française, ou franco-allemande ou suédoise, ils ont préféré, peut-être aussi pour flatter les Américains, aller acheter sur le marché américain. Et aujourd'hui, ils ne peuvent donc plus pas utiliser leur propre force contre celui qui leur a vendu le matériel.
Absolument, c'est interdit.
Enfin, c'est interdit, mais bon, bref, j'ai l'impression que Donald Trump, ce qui est interdit, ça...
Ce qui est interdit contre Donald Trump. Voilà. Donald Trump, c'est à sens unique. Ce qui est à vous est à moi, et ce qui est à moi reste à moi. Donc, le processus, de toute façon, ne change rien. Mais l'illusion des Européens, la fascination des Européens, la lâcheté d'une partie des Européens crée les conditions de... Vous noterez d'ailleurs qu'il n'y a que 4 pays qui vont envoyer 40 soldats au Groenland, 4 sur 27.
Les autres, ils disent quoi?
Rien.
Et pourquoi? Ils ne diront rien ensuite.
Ils feront un commentaire, c'est vraiment pas bien.
Est-ce qu'il faut véritablement imaginer que, et je vous repose la question de l'échéance, que ces deux options, c'est-à-dire acheter le Groenland ou occuper le Groenland, pourraient arriver à brève échéance?
Avant la fin de cette année, en tout cas, on saura exactement ce qu'a été le choix de Donald Trump. Et dans tous les cas de figure, il a annoncé qu'il voulait cela, il aura cela.
2026.
Mm-hmm.
2026 est l'année de la bascule.
Oui, comme ce sera l'année de la bascule sur Taïwan probablement, puisque à nouveau, le président chinois vient de raccourcir le délai 2035, 2032, 2027, 2026 pour récupérer Taïwan.
Est-ce que c'est un rapport l'un avec l'autre?
Bien
sûr. Est-ce que ce dérèglement complet, ce chaos, cette incertitude, est-ce que tous les morceaux du puzzle sont liés?
Alors je crois pas que ça soit ni un chaos ni un dérèglement, c'est un re-règlement, c'est la revanche et la vengeance des empires, et chacun revient chez soi. En fait, la carte que nous voyons, nous, en horizontale, faut désormais la voir en verticale. Les États-Unis au sens large, la Chine au sens large, et d'ailleurs la nouvelle carte chinoise officielle de Huaoyaobang, elle est verticale et pas horizontale.
C'est-à-dire qu'on déplie le monde
différemment.
À la verticale au lieu de le faire à l'horizontale.
Voilà.
On ne l'ouvre pas sur le côté...
Et on a donc l'Empire chinois, l'Empire américain... Et au milieu, les trucs qui restent à conquérir.
Les trucs qui restent à conquérir, c'est nous?
Oui, les marchés, parce que c'est juste des clients, ou les adversaires, quand ils ont cette situation de pouvoir un jour concurrencer d'un point de vue fiscal, c'est la situation de Monsieur Breton, d'un point de vue industriel, d'un point de vue politique, les deux empires.
Alain Bauer, il y en a qui peut-être ont cru la parole de Donald Trump. Ce sont les Iraniens. Ils sont descendus dans la rue et après quelques jours de ces manifestations, abominablement réprimées, Donald Trump a dit « l'aide arrive ». Et voilà qu'il dit qu'au fond, les choses ont l'air de se calmer. Quel Donald Trump faut-il croire? Et a-t-il fait preuve ou est-il en train de faire preuve aujourd'hui d'une forme de lâcheté après leur avoir laissé entendre qu'il irait les aider? Est-il en train de laisser tomber les Iraniens?
C'est surtout qu'il s'est rendu compte qu'il avait un problème. Voici le positionnement des forces navales américaines dans le monde. Zéro dans le Golfe.
Vous montrez là, et je le précise pour ceux qui nous écoutent sur RMC, une carte du monde où sont les porte-avions américains.
Qui sont pas tout seuls, hein, c'est une flotte complète.
Et les flottes complètes, il y en a un qui est en train de repartir, voilà, on est d'accord,
qui sera là la semaine
vers
prochaine.
Le Golfe. Est-ce que ça veut dire, si on regarde cette carte-là en temps réel, qu'au fond, Donald Trump est en train de faire que gagner du temps, oui, parce que pour l'instant, de toute façon, il peut pas taper. Et que donc, il faut attendre que son porte-avions et que sa flotte soit de retour,
oui, il n'a pas les moyens,
dans la zone?
Il n'a pas les moyens d'une frappe, enfin, une frappe conséquente. Il n'est pas possible de demander aux Israéliens de sous-traiter une frappe conséquente, car ça mettrait l'ensemble du Golfe en feu. Les alliés des États-Unis dans le Golfe, y compris au Qatar, lui disent, ah non, mais là, ça va pas le faire.
C'est ce qu'a dit l'Arabie Saoudite, c'est ce qu'a dit le Qatar.
C'est ce qu'a dit Qatar.
Qui ont refusé que les avions américains passent dans son espace aérien.
Voilà, donc il ne reste que la présence d'une flotte, ce qui laisse à Donald Trump 8 jours, soit pour constater la solidité du régime, ce qui est une option, soit pour dire si la révolte est suffisamment structurée et continue, à ce moment-là, je pourrais frapper. Donc il nous reste 8 jours d'attente sur la décision qui pourrait être ultimement celle de Donald Trump. C'est la même chose que sur les frappes contre l'Iran et ses espaces nucléaires. Non, non, peut-être, oui, faut voir, oui.
Et puis finalement, il avait effectivement fait ses frappes. Est-ce que ça veut dire, Alain Bauer, que ce que vous comprenez, c'est que Donald Trump ne dit pas aujourd'hui qu'il n'interviendra pas en Iran, il veut juste gagner du temps.
Oui.
Il n'a pas renoncé.
Non.
Pendant ce temps-là, la répression a été abominable. Les premiers constats officiels font état d'au moins 4000 morts, mais il ne s'agit que des constats officiels. On imagine, et c'est vraisemblablement beaucoup plus, peut-être au-delà de 10 000 personnes qui ont trouvé la mort dans les manifestations. Que peuvent faire les Iraniens? Que peut-il se passer?
Il est très compliqué de résister en Iran, d'abord parce que le régime est extraordinairement présent, puissant, les passes d'Aran plus que tous les autres. Donc il y a toujours un choix des Américains, comme ils l'ont fait au Venezuela, de trouver un interlocuteur valable qui pourrait aider à renverser le régime, parce qu'on ne sait pas très bien qui remplacerait Ali Khamenei et le guide de la révolution. Je précise que le président de la République en Iran est un fantoche, un président de 4e République, ça sert pas à grand chose, mais ça donne l'impression d'une démocratie. Et pour l'instant, cette solution n'a pas été trouvée par les Américains, notamment. Deuxièmement, les Israéliens ont de gros moyens de renseignement en Iran, mais eux non plus n'ont pas trouvé la martingale permettant un effondrement du régime ou, comme au Venezuela, un régime change sans régime change. C'est-à-dire, on change la tête, on trouve quelqu'un qui est plus compréhensif, mais on garde le système parce qu'il ne faut pas que tout s'effondre. Puisque la grande peur des Américains, comme ils l'avaient fait d'ailleurs après la Deuxième Guerre mondiale, c'est que l'État s'effondre. Donc ils sont favorables simplement à un changement à la tête, mais ils n'ont pas trouvé la solution. Alors ils la cherchent. Le président Trump, par exemple, n'a pas adoubé Monsieur Pahlavi, le successeur héritier du dernier empereur, du dernier Shah. Et donc ça montre bien les incertitudes qui existent. Vous avez pu noter qu'en Venezuela, il n'a pas non plus adoubé Madame Machado,
Madame
qui lui
Machado,
a aimablement offert son prix Nobel.
Prix Nobel de la paix, qui hier soir, dans un geste à la fois symbolique et un peu désespéré, lors de sa rencontre avec Donald Trump, lui a symboliquement donné sa médaille du prix Nobel. Ça ne change rien. Donald Trump ne reçoit pas pour autant le prix Nobel, mais le fait de lui donner cette médaille, c'en est presque tristement pathétique. Ou est-ce que vraiment elle peut espérer qu'alors il lui donne le pouvoir?
Non, mais le problème avec Donald Trump, c'est pas que nous c'est pas que nous le jugions par rapport à des concepts moraux parfaitement répandus. C'est de voir si ça fonctionne ou pas. Est-ce que Donald Trump va ou pas, à partir d'éléments de flatterie, d'accompagnement, etc., décider d'aller plus loin au Venezuela que simplement le changement du président Maduro par sa vice-présidente? La vice-présidente est très compréhensive. Elle parle beaucoup à M. Rubio, le secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale américain. Il a un objectif personnel qui s'appelle Cuba, qui est un élément dont nous n'avons pas parlé, mais qui est caché derrière le Venezuela, mais qui est aussi caché derrière l'affaire iranienne. Contrairement à ce qu'on imagine, tous ces éléments ne sont pas isolés les uns des autres. Tout cela est parfaitement cohérent, parfaitement coordonné. Il faut juste se donner le temps de regarder et de cartographier tous ces micro-événements pour se dire, mais il y a une vraie stratégie derrière. Ce que j'explique d'ailleurs dans le livre, c'est que Donald Trump, il est
totalement stratégique, il est totalement business et il emballe à ça avec de la provocation, de l'agitation, mais tout ce qui nous évite de réfléchir au vrai sujet puisque nous réagissons simplement à ces provocations.
Merci beaucoup Alain Bauer d'être venu ce matin nous aider un peu mieux à comprendre, et on l'a bien compris, désormais il faut regarder la carte différemment, le pouvoir, la puissance, Trump, le pouvoir des mots, décryptage d'une redoutable mécanique de persuasion de masse, votre livre aux éditions First. Il est 8h47 sur RMC et BFM TV.
RMC, une semaine face à Canteloup.
Cette semaine, le maire de Nice, Christian Estrosi, était dans le face-à-face et il était resté face à Canteloup.
Bonjour Christian Estrosi.
Bonjour, je suis venu assister à ce moment-là.
Et l'un de vos amis, Éric Ciotti, voulait vous dire un mot?
Oui, écoutez, si je suis là, ce n'est pas un hasard. Hein, vous l'avez compris, vous le savez très bien avec Christian Estrosi, nous connaissons. Hein, ça fait 30 ans qu'on se connaît, 20 ans qu'on se fréquente, 10 ans qu'on se déteste, 5 ans qu'on se méprise et 2 ans qu'on ne peut plus s'encadrer. C'est vous dire si on est proche.
C'est à ce point-là.
Mais écoutez, en tout cas, moi, je me sens très proche de son fauteuil de Nice. Hein, de maire de Nice.
C'est ça.
Je l'assume, je veux prendre sa place à Nice. Peut-être ne s'est-il pas rendu compte de cet élément. Hein. En tout cas, je le lui dis droit dans les yeux, parce que moi, je suis cash, voilà, je suis comme ça. Par contre, j'espère que lui ne va pas me piquer ma place de quoi d'ailleurs. Qu'est-ce que j'ai comme place importante, moi? Parce qu'avant, j'étais. Mais maintenant, j'ai plus trop. Si, je suis quand même trésorier de l'amicale des amoureux du Pambagna niçois. Disons, qu'est-ce que j'ai d'autre comme place enviable? Ah si, à la cantine de l'Assemblée, je suis juste à côté de Marine. C'est une très bonne place, c'est très, très, très prisé comme place. C'est comme un carré VIP pour un concert de Jules.
Oui. Alors justement, vous vous présentez donc à Nice face à Christian Estrosi.
Oui, car je le dis solennellement, l'heure du choix est arrivée pour les Niçois. Est-ce qu'ils veulent continuer avec un maire de droite qui promet la répression contre le trafic de drogue, qui promet la propreté, qui promet plus de police, moins d'impôts, ou au contraire, est-ce qu'ils veulent renverser la table avec un maire de droite qui promet la répression contre le trafic de drogue, qui promet la propreté, qui promet plus de police et moins d'impôts? Oui, vous avez compris qu'avec moi, ça n'aura rien à voir.
Si vous pouvez me permettre, ça paraît un peu similaire quand même.
Mais non, mais non. Ouvrez les yeux, regardez la gestion de Christian Estrosi, regardez ce que Nice est devenu. La population va moins bien, elle s'appauvrit. Avant, Nice, c'était des jeunes milliardaires, aujourd'hui, c'est plus que des vieux millionnaires. La misère s'installe, madame Malherbe. Ouvrez les yeux des journalistes quand même.
Ça reste une population aisée quand même, monsieur Ciotti.
Aisée, mais plus du tout. Il y a des Niçois qui sont en difficulté aujourd'hui financière à Nice. Certains Niçois sont aujourd'hui obligés de choisir entre se payer un deuxième yacht ou une troisième maison. Mais ils ne peuvent pas faire les deux.
Bon,
c'est fini pour cette époque.
Merci monsieur Ciotti. C'est avec tristesse que nous avons appris le décès d'une des grandes voix d'RMC, Roland Courbis. Et Zinedine Zidane tenait à lui rendre un dernier hommage.
Oui, pardon, bonjour à monsieur Estrosi. Non, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que j'ai bien connu Roland. Déjà, c'était un bon joueur. C'est l'OM, Olympiakos, je m'en souviens, Monaco. C'était pas mon niveau non plus, mais c'était quand même... C'était quand même un super joueur. Et puis, c'était surtout aussi un grand entraîneur. Bon, les Girondins, Marseille, c'était pas mon niveau non plus, mais c'était quand même un grand entraîneur. Puis surtout, c'était vraiment une grande gueule, toujours à l'aise pour parler. Et là, pour le coup, c'était vraiment pas moi non plus.
François Villeroy de Gallo était mon invité ce matin. Bruno Le Maire, vous souhaitiez réagir à cette interview. Bonjour.
Bonjour, madame Malherbe. J'ai envie de vous dire félicitations.
Ah bon ?
C'est très beau ce que vous avez fait. Oui. Ce matin, d'offrir son micro même aux plus démunis. J'étais très touché en écoutant ce monsieur sans le sou.
Bon, il n'est pas sans le sou, c'est François Villeroy de Gallo. Il est à la tête de la Banque de France.
Oui, c'est ce que je dis, la tête de la Banque de France. Hein, 0 euro, 0 centime. Oh. Hein. Il est même à la tête de moins 3600 milliards. Ça commence à faire un beau découvert. Hein. Je comprends ses propos, le pauvre est fauché. Il y a des solutions. Je ne sais pas, moi, jouer de l'accordéon dans le métro. Hein, bon, c'est vrai que les Français n'auront pas de sous à vous donner, mais les touristes, peut-être.
Bon, vous êtes quand même un peu gonflé, monsieur le maire. C'est un peu de votre faute si la Banque de France
français dans cet état, non ?
Concerne ma faute. Attendez, moi je suis venu pour aider, hein, ma mère. Ah ouais. Pas. Hein, on est là pour avancer, pour chercher des solutions, pas dire c'est la faute à machin ou la faute à truc. Et ça m'arrange, en plus de pas le dire. Hein. Mais j'assume, madame Mélard, droit dans les yeux, j'ai des pensées. Mais bon, c'était quand même lui le chef des banquiers. Hein. Quand en face de vous, vous avez un banquier qui vous autorise un découvert de moins de 3 000 milliards, bah, vous faites plaisir, on n'est pas con non plus.
Hein. Il est presque 9h, bientôt l'heure des grandes gueules. Quel est le programme aujourd'hui, Alain Marsal ?
Bonjour, Apolline. Aujourd'hui, dans les GG, nous recevrons Daniel. Daniel de Porquerolles nous apportera son regard sur les manifestations en Iran, puisqu'il fait partie des rares qui ont eu le courage de regarder en version originale sous-titrée, un film iranien. Et puis, politique, quelles conséquences en cas de nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale ? Nous en parlerons avec Tiffany, qui est prothésiste ongulaire à Beauvais et qui, justement, utilise elle-même au quotidien du dissolvant. Et puis la mobilisation des agriculteurs, Annie Genevard est avec nous aujourd'hui, se poursuit un peu partout en France et nous l'évoquerons avec Monique de Paris qui est bien placée pour en parler puisqu'elle achète depuis plus de 20 ans du beurre de la marque Paysan Breton. Voyez, les meilleurs experts sont dans les grandes gueules.
Les agriculteurs en colère qui bloquaient l'autoroute A64 ont été délogés par les forces de l'ordre. Et on fait le point avec Jérôme Bail. Bonjour.
Moi j'ai pas besoin qu'on me pousse pour rentrer à Paris. Je suis rentré direct à la ferme parce que j'ai appris une terrible nouvelle. Il y a eu un drame à la ferme.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ma femme est partie.
Oh là là. Ah, je comprends, c'est très dur.
Mais non, mais je m'en fous qu'elle soit barrée. Ce qui m'a fait mal, c'est qu'elle s'est barrée avec.
Avec qui ?
Elle s'est barrée avec. Avec un éleveur de bovins argentés.
Oh non.
Depuis le jeudi, j'ai dit que c'était la concurrence déloyale, bien sûr. Lui, c'est la concurrence déloyale. Lui, il est plus bandit que moi. Il a un joli accent. Il n'a pas besoin de mettre une casquette parce que lui. Il a des cheveux, lui. La concurrence déloyale.
Merci Nicolas, Nicolas Canteloup. On vous retrouve évidemment lundi 8h50 et à tout moment en podcast sur RMC. Dans un instant, les grandes gueules. Quel est le programme, Alain Marchal ?
Eh bien, dans les GG, dans les grandes gueules, avec l'avocate Sandrine Pégan, le chef d'entreprise Emmanuel Devilliers, le consultant Antoine Diers. Nous allons reparler de la France qui envoie ses chasseurs alpins au Groenland. Est-ce qu'on doit se battre pour le Groenland ? Vous venez en parler avec les GG, avec les grandes gueules. Sébastien Lecornu va sortir le 49-3. C'est la trahison politique du moment. Je croyais que le 49-3, c'était la ligne rouge pour faire adopter le budget. Bon, on va voir tout ça, bien sûr, avec vous au 32-16. On regardera aussi le coup de gueule du patron de Safran. C'est l'un des fleurons d'industrie française. Il veut remettre les maths à l'école. Sinon, on va cruellement manquer d'ingénieurs, dit-il. Il faut les maths. On a besoin des maths pour former les esprits. Et puis, nous recevrons Alain Duhamel, 60 ans d'analyse politique. Alain Duhamel, il fait l'objet d'un documentaire sur BFM TV et France Télévisions. Et il viendra égrener ses souvenirs avec nous.